Il n'y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat
pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 19 octobre, il est 8h30 au programme de cette matinale. Ce sont les médias participatifs et associatifs qui sont à l'honneur aujourd'hui. En effet, dans un instant, nous partons à la rencontre des web télé et de leur fédération. C'était organisé par nos amis de Télédrive vendredi et samedi et nous irons à la rencontre de Ximoun, Christian et Samuel qui vont nous expliquer les enjeux de ces rencontres et tout nous dire sur leur fédé, sur ce qu'est une web TV, etc. Ce sera tout à l'heure. Et puis retour sur ce que c'est qu'une radio associative avec Vincent qui était venu nous voir il y a quelques mois pour nous parler de Radio Jade. Ce sera en deuxième partie d'émission. Il y aura de la musique comme d'hab et si tout va bien, eh ben c'est parti pour l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Mais oui, tout va bien. Je les aime, nos aînés. Ce sont vraiment des personnes merveilleuses avec des vies, des visions et tant de choses à raconter. Mardi, 6 d'entre eux sont de la maison de retraite de Florac, sont venus nous rendre visite avec Françou. Et je vous assure que ça m'a fait une cure de jouvence. Elle est belle, notre vieillesse, dans tout ce qu'elle a vécu, de joli ou de terrible. La larme à l'œil quand ils sont partis après une heure de discussion avec eux, de sourires et de rires et d'anecdotes parfois terribles. Prenons le temps de les écouter, d'aller les voir, de vivre et de partager avec eux, je vous assure qu'on a tellement à y gagner. Nos aînés, qui ont vécu 2 années quand même assez compliquées, enfermés dans leur mouroir, aucune visite, aucune animation, rien. Alors maintenant qu'enfin ils peuvent revivre, car vieillir ne doit pas être un fardeau, donnons-leur les moyens de faire plein de choses. C'est ce à quoi s'attelle Françou, animatrice de l'EHPAD de Florac, et elle le fait avec tellement de vie. Radio des aînés, et un moment magique sur nos ondes, ce sera ce vendredi à 11h sur Bartas. Le respect des aînés est une marque de caractère. Vive eux.
Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. et plus le temps nous fait cordel. Plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. Laisse-moi faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore.
Jacques Brel, la chanson des vieux amants. Ce week-end, c'était la rencontre de la Fédération de l'audiovisuel participatif dont Télédrive fait partie. Ce sont eux qui les accueillaient. Et à cette occasion, nous avons rencontré Simon Carrère, Samuel Pastel et bien sûr notre Christian National de Télédrive qui nous explique les enjeux de ces rencontres. Alors évidemment, ça s'est passé au Relais des Cévennes. Il y avait un peu de monde dans la salle au départ, mais c'est parfaitement audible. Tout va bien, c'est parti.
La Fédération de l'audiovisuel participatif, alors ça regroupe aujourd'hui une quarantaine de structures en France, c'est né dans les années 90. Et c'est des structures qui travaillent dans l'audiovisuel et qui, au travers de l'outil audiovisuel, dans divers territoires, qui peuvent être ruraux ou urbains, travaillent surtout à créer de la relation entre les gens, les habitants. Donc c'est pour ça que c'est l'audiovisuel participatif, c'est l'idée de faire ensemble, faire le média ensemble et travailler ensemble sur le média. Et la fédération, c'est le lieu où tous ces gens qui font ça un peu comme ils peuvent, chacun dans leur coin, se retrouvent et en parlent ensemble, échangent leurs expériences, leurs envies, leurs projets. En général, on repart de ce type de réunion regonflé en se disant « bon, ça n'a pas résolu tous mes problèmes, mais je me sens un peu moins seul ».
Alors justement, parlons-en des problèmes.
Après,
c'est quoi les problèmes du Web TV? Parce qu'on peut vous appeler comme ça.
En fait, le truc, c'est que dans la fédération, il peut y avoir diversité. C'est-à-dire qu'il y en a qui produisent, il y en a qui produisent du contenu, il y en a qui produisent et qui diffusent. Bon, aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, aujourd'hui, ça c'est devenu un peu plus facile de diffuser. À une certaine époque, c'était plus compliqué de diffuser, il fallait des canaux de diffusion. C'est les batailles qui ont eu lieu à la fédération sur la démocratisation des canaux de diffusion. Internet a amené cette possibilité-là. Maintenant, avoir une diffusée, poser une vidéo sur une plateforme quelconque sur Internet et devenir un vrai diffuseur de contenu régulier, c'est deux choses qui sont différentes. Donc il y en a certains, ils peuvent faire des contenus et diffuser ces contenus, mais plutôt sur des soirées publiques, regarder ensemble aussi, fait partie de l'aspect participatif. Et ça, c'est à échelle variable. Certaines structures vont beaucoup travailler ces logiques de diffusion et de diffusion de films en public. Peut-être même pas des films qu'ils ont produits eux-mêmes, mais regarder des choses ensemble, les commenter, discuter. Et ils font quand même partie du réseau et de la fédération. D'autres vont être dans la production, d'autres vont être beaucoup plus sur de l'atelier, du travail en atelier avec des gens, sans logique de régularité de production, quoi. Et d'autres mixent le tout et font un peu de tout. Donc cette diversité est aussi importante dans ce réseau-là. On ne veut pas formater les gens à l'entrée du réseau, mais c'est plus le réseau est accueillant et englobe des gens qui sont d'accord avec certaines valeurs, qui sont qui sont portés par la fédération.
Pourquoi c'était important pour Teledry aujourd'hui d'inviter comme ça ces web TV?
Parce que, ouais, c'est des rencontres trimestrielles de cette structure qui regroupe voilà, toutes ces entités locales, régionales. Et là, c'est une rencontre normalement trimestrielle qui est un petit peu du travail en commun qui peut être sur des subventions, sur des problèmes techniques. On va parler du PeerTube, là, passer, voilà, squeezer peut-être YouTube sur autre chose. Voilà. Donc voilà, on a plusieurs domaines de réflexion sur un week-end. Et c'est surtout des échanges et des rencontres entre les savoir-faire, nos savoir-faire techniques. Ça peut être, il y a plusieurs points vont être abordés. On n'a pas encore fait d'ordre du jour. L'ordre du jour va être fait avec les gens qui sont là et sur les thématiques qu'ils ont envie de mettre en avant. Et donc, voilà, demain matin ou ce soir, on va mettre au point l'ensemble du travail. Et on va donc partager autour des divers thématiques qui sont ressorties plus prégnantes au moment voulu.
C'est le pendant de la communauté du libre, le pendant d'une plateforme de diffusion vidéo, mais portée par la communauté du libre, sur une logique d'hébergement mutualisé des vidéos qui sont hébergées chez les uns chez les autres et qui permettent de créer un réseau et après avec une plateforme de diffusion, un outil de diffusion qui est équivalent à ce que fait YouTube.
Mais qui est libre. YouTube, c'est 2, 3, je sais pas, 5 000 vues, 2 millions de vues, etc. Cette plateforme permettrait d'avoir autant de milliers de millions de vues?
Mais techniquement, oui. C'est la question du réseau. C'est-à-dire, si je fais une vidéo qui doit intéresser mon public, mon travail, c'est de faire le lien entre ma vidéo et mon public. Donc, je peux le faire de n'importe quelle plateforme. Il s'agit de faire que... Si je dis à mon public, ma vidéo va être sur YouTube, il viendra sur YouTube. Si je lui dis, elle est sur PeerTube ou elle est sur mon site internet, n'importe quelle plateforme en arrière-plan qui gère la vidéo, elle viendra voir cette vidéo. La question de savoir est-ce qu'une vidéo est bien parce qu'elle a eu 1 million de vues ou 5 000 vues, pour nous, la question ne se pose pas à ce niveau-là. Elle se pose la question de dire comment le travail qu'on fait touche le public qu'on veut qu'il soit touché avec et comment le public s'en saisit. Donc aujourd'hui, PeerTube, techniquement, est l'équivalent de YouTube. PeerTube n'est pas porté par un projet comme Google qui porte YouTube, qui est macro mondial et qui a son projet lui-même de faire venir le maximum de monde, de faire mettre de la pub quoi. PeerTube n'est qu'une plateforme technique d'apport. Et nous, ça nous intéresse plutôt de nous rapprocher de ce type de projet plutôt que d'alimenter une grosse plateforme qui nous échappe.
C'est un support technique libre et surtout collaboratif. Donc voilà, c'est l'essence même de ce qu'est la fédération. C'est trouver des moyens transversaux plutôt qu'horizontaux et contourner les médias, les médias, les consortiums, les gros consortiums. Et ça, voilà. Donc, mais Teledry aujourd'hui est sur YouTube, hein, aujourd'hui Teledry est sur Facebook, c'est là où on a les plus grosses vues, mais on est intéressé par une plateforme technique qui nous permette la même chose, mais avec la liberté de gestion aussi de cette plateforme technique. Se dégager de peut-être des pouvoirs de commerciaux, de l'argent, du consortium, c'est alternatif.
Donc c'est un peu un équivalent de Linux.
C'est basé sur Linux.
C'est les mêmes logiques. C'est la communauté du libre qui développe ce type d'outils
Donc là, c'est vraiment au sein de votre fédération que vous travaillez sur ce
projet. Non, la Valpeertube est une plateforme qui existe par ailleurs, comme Frama, Frama. Vous connaissez les Frama, Framasoft, Framacalc, Framapad. Et c'est la même communauté qui a développé la partie partage de vidéos
et d'hébergement,
d'hébergement vidéo. Et donc ça existe par ailleurs. Et il y a des structures, des ONG, d'autres structures qui utilisent Pertube plutôt que utiliser YouTube ou autre, Vimeo ou autre. Et nous, par contre, on s'est rapprochés. Et l'intérêt de travailler et d'être en relation avec ces développeurs, c'est que on représente une masse tous ensemble, une masse importante, et aussi de retour d'expérience et d'utilisateurs et eux qui les intéressent. Donc voilà, il y a des ponts qui se font pour essayer d'avancer ensemble.
Est-ce que ça va finalement pas vous demander plus de moyens en fait de rentrer sur ce genre de plateforme en fait ? C'est la même chose, sauf que est-ce que pour vous c'est un risque en disant on aura peut-être moins de vues, ou alors est-ce que pour vous c'est un pari ?
C'est exactement le sujet de ces rencontres dans lesquelles on échange sur ces questions-là. Par l'expérience, nous on a fait ça, on y a été, voilà les problèmes que ça nous a causés. Nous on réfléchit à y aller, c'est intéressant de savoir que vous avez eu tel problème, mais peut-être qu'on peut en contournant les choses. Ah mais si vous faites comme ça, on n'avait pas pensé, nous aussi on va l'adapter. Et ça c'est le quotidien du projet de la fédération.
La grosse différence qui a été soulignée, c'est que c'est pas le nombre de vues qui importe. Moi ce que j'ai compris, c'est surtout
c'est la qualité du télé, du spectateur,
du participant. On est sur une logique.
C'est une logique de voilà de aussi de d'intéresser une communauté, et que cette communauté quelle que soit la plateforme et le moyen, qu'il soit visible ou qu'il soit non visible, accède à ce bon message qu'on veut délivrer, poster. C'est pas toujours simple de s'adresser à un entourage qui est assez restreint. Tu le sais, Ben, sur les radios locales, c'est les mêmes problématiques qu'on a aussi. Mais on a, de toute façon, dans la fédération de l'audiovisuel participatif, je crois que le mot le plus important, c'est participatif. C'est faire participer les gens à prendre en main ses médias, prendre en main sa communication, et qu'elle soit vue au maximum. C'est pas un enjeu. Nous, on n'est pas des youtubeurs, justement. On n'est pas par le nombre de vues, rémunérés par le nombre de vues. Nous, d'ailleurs, notre chaîne sur YouTube n'est pas monétisée. Sur Facebook, c'est pas monétisé. Beaucoup de la fédération ne sont pas monétisés. Et c'est pour ça qu'on promeut toujours ce qui peut être des outils de partage, des outils libres. Voilà. Ça fait sens par rapport à ce qu'a été au début la fédération des vidéos de pays de quartier, c'était l'ancien nom, mais ce qui est maintenant la fédération de l'audiovisuel participatif.
Alors moi je m'appelle Samuel Pastel et je viens d'Orléans. La structure que je représente c'est le 108 et le média que je représente c'est Zotelli. Au départ on est plutôt un tiers-lieu en fait, plutôt à vocation artistique et culturelle. C'est une quarantaine d'associations. Et puis on a eu l'idée, enfin ça traînait déjà depuis très longtemps, d'essayer de faire un média plutôt à vocation citoyenne comme on dit. Voilà. Parce que les gens ne sont pas toujours satisfaits de ce qu'ils voient, et puis que des fois, pour comprendre comment se fabrique l'information, d'être un petit peu à l'origine de la fabrication des informations, c'est aussi intéressant de connaître un petit peu le cheminement. Voilà, ça interroge sur les rôles des experts par exemple, enfin bon, c'est quand même assez logique d'aller voir un spécialiste du nucléaire quand tu parles nucléaire. Sauf que tout de suite on va parler d'experts et tout de suite ça va être connoté et on va crier au complot. Donc c'est une façon pour nous aussi de faire du lien, voilà, aussi bien au niveau de l'agglomération que dans notre quartier. Même si ça marche pas aussi bien et aussi fort qu'on l'aurait peut-être espéré au départ. Il y avait un fort engouement au départ, et puis après, le problème de l'audiovisuel, c'est le temps qu'il faut pour fabriquer du média, et on n'a pas la force de frappe des grands groupes de presse, quoi. Donc voilà. Et d'un autre côté, je pense que c'est nécessaire aussi que ces médias-là, ils existent. parce qu'on s'aperçoit que, mine de rien, même des journaux de la PQR, par exemple, ils utilisent quand même des correspondants de presse sur place qui ne sont pas forcément des gens qui gagnent leur vie avec ça. C'est un à côté, mais c'est pas... Donc mine de rien, même les professionnels, entre guillemets, utilisent assez facilement les amateurs, puisque pour couvrir un territoire à moindre frais, des gens qui sont juste passionnés, c'est pas mal. Bon, après, je crache pas sur la méthode, puisque nous, dans l'audiovisuel participatif, on peut être amené aussi à faire la même chose. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment des gens qui sont intéressés. La seule différence qu'il peut y avoir entre un média traditionnel et puis un média participatif, je pense que c'est les moyens techniques, en fait, quoi. C'est que eux, ils disposent de moyens techniques et de professionnels, de professionnels dans les moyens techniques qui peut leur permettre assez rapidement d'arriver à un produit un peu propre. Nous, il faut qu'on apprenne à cadrer, il faut qu'on apprenne à tourner, il faut qu'on apprenne à utiliser les outils qu'on met à notre disposition, avec du public qui change, puisque souvent les gens ils se passionnent pour une chose pendant 1-2 ans, et puis après ils ont envie de développer une autre passion. Donc il y a aussi ce côté-là. Donc,
quand tu parles de médias participatifs, de médias, de gros médias, etc., voilà, faire la différence entre tout ça, le média participatif, tu crois que c'est l'avenir aujourd'hui?
Non.
Et qui peut éviter les théories entre guillemets complotistes ou
Moi, je suis pas futurologue. Hein. pour le coup, je suis pas spécialiste du futur, mais je pense que c'est pas le futur. Par contre, c'est, je pense, nécessaire que... De toute façon, tout le monde est producteur à un moment ou à un autre de médias. C'est-à-dire que quand moi, je vais discuter à la pause à mon boulot avec les copains, je pense qu'on commence déjà à faire du média, mine de rien. Alors, influencé par les grands groupes médiatiques et par l'actualité du moment, bien souvent. Et nous, c'est un peu ça qui se passe, je pense, dans l'audiovisuel participatif, et qu'on essaie de... Vu qu'on n'a pas le temps d'être dans l'information immédiate, parce que ça demande une force de frappe, des moyens, du personnel en nombre, et qu'il faut beaucoup d'argent si on veut concrètement suivre l'actualité. Donc du coup, on s'attache peut-être à faire moins d'informations brutes comme ça, et peut-être qu'on arrive à être plus en profondeur. Et puis en plus, c'est une façon aussi de connaître un peu mieux son territoire, en tout cas des acteurs qui sont sur le territoire, puisqu'en général, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne à Zotelis, c'est qu'on peut être amené à aller chercher des gens, mais souvent on répond aux sollicitations des gens qui voudraient justement qu'on couvre leur événement pour avoir soit une petite trace, voilà. Parce qu'aujourd'hui c'est devenu nécessaire d'avoir une petite vidéo, d'avoir un petit son, d'avoir un petit article, voilà, qui retrace un petit peu tout ça. Ouais. Je trouve ça bien dans l'optique de la mémoire, en fait, quand on fait aussi partie d'un patrimoine, comment on disait quand j'étais à la radio, gardien de la mémoire vivante. Un petit peu. Je trouve qu'on fait un peu ce job-là. Alors à notre modeste niveau, hein, bien évidemment. Et après, là, ici, dans la réunion qu'on a autour de la Fédération de l'audiovisuel participatif, on a vraiment plein de structures avec plein d'échelles de structuration différentes. Et c'est ça qui est aussi enrichissant. Après, je trouve qu'en France, il y a quand même les moyens globalement qui sont mis. Alors même si on n'est jamais content, que ça pourrait être mieux, ça pourrait être plus important. Mais les pouvoirs publics ne sont pas, comment dire, ils sont présents quand même. Bon, pas forcément comme nous on le souhaiterait, à la hauteur dont on le souhaiterait. Il faut toujours justifier d'une certaine éthique. Qui correspond souvent à une éthique journalistique, qui correspond aussi aux journalistes qui sortent des écoles. Alors nous, je pense qu'on n'a pas les moyens et on n'a pas forcément envie, en fait, de toujours avoir cette forme un peu formatée, voilà. On essaie de temps en temps de s'en défaire, même si c'est pas toujours facile, voilà. Et puis on garde aussi des formes très classiques. Moi, je fais beaucoup de plateaux télé, par exemple. que je trouve que c'est quand même des formes assez intéressantes. Alors après, le public, c'est, enfin, le problème, c'est pas tant de créer du média que de s'en faire l'écho pour que les gens puissent voir ce qu'on fait. Parce que c'est aussi ça, être un média, c'est aussi vouloir être connu, reconnu, diffusé, entendu, voilà. Et puis d'être quelque part un peu une forme d'influence au niveau local. Bon, ça marchouille, hein. Comme beaucoup de choses dans notre pays, ça marchouille, mais globalement, je trouve que ça participe de la démocratie indirecte.
Participative, en tout cas. Merci beaucoup.
Oui, ah oula, bah, dis donc, ça se termine bizarrement, c'est marrant. Voilà pour ces rencontres des web télé, en tout cas de la fédération. Je vais retrouver le nom, la fédération de l'audiovisuel participatif. Voilà, et dans un instant, on parle justement de radio associative avec Vincent de Radio Jade qui était venu nous voir. On écoute d'abord Gainsbourg, la chanson de Prévert.
Je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence? Et quand finit l'indifférence, passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'efface de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de
Et je suis ce matin avec Vincent, bonjour.
Bonjour.
T'es venu nous rendre visite en tant que directeur d'une radio associative qui s'appelle Radio Jade.
Ouais.
Alors du coup, on se fait un petit échange de bons procédés, j'ai envie de te dire, parce que rencontrer d'autres radios associatives est libre, puisque tu y tiens.
Oui.
C'est super important et c'est génial. Alors Radio Jade, c'est où, c'est quoi?
Alors, c'est donc Jade FM plus exactement, mais Radio Jade, c'est bien, c'est en Loire-Atlantique, c'est sur la côte de la Loire-Atlantique, on fait toute la côte de Loire-Atlantique, tout l'ouest du département, plus la Vendée aussi. C'est une radio qui, pour sa forme éditoriale, a 3 ans à peine.
Ah oui, toute neuve.
Ouais, toute neuve. Ouais, j'étais tout seul. C'était une radio qui était avec 36 000 euros de dette. Une catastrophe, un désastre. C'était des gens, il y a des gens, mais je vous jure que c'est vrai, il y a des gens, on se demande pourquoi ils font de la radio, parce qu'ils font pas de radio en fait. Ils prennent une radio, ils font pas de radio. Bref, donc voilà, j'ai repris ça tout seul, et puis petit à petit, ça s'est relancé, voilà. Puis en 2 ans, tout a été épongé, toutes les dettes épongées. Une nouvelle ligne éditoriale qui n'avait plus rien à voir avec ce qui se faisait auparavant. Donc, pour présenter la radio, qu'est-ce qu'on fait ? Beaucoup d'émergences pour la programmation musicale. Au début, évidemment, vu qu'on n'était vraiment pas nombreux, on faisait beaucoup de programmation musicale. Donc, apparenté FIP un peu. Je ne sais pas si... Ouais,
ouais, c'est on connaît bien ici. Ouais.
FIP, voilà, mais on est un peu plus jeune. Voilà, et puis petit à petit, c'est greffé ce que j'appelais des pôles. Bon, c'est un peu grandiloquent comme terme, mais c'est des pôles. Alors, on a commencé par de l'éducation aux médias. On travaille beaucoup avec la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. Donc on fait de l'éducation aux médias. En fait, on se déplace dans les écoles, les centres de vacances, les bibliothèques aussi, bibliothèques, médiathèques. Et on leur montre c'est quoi la radio, c'est quoi un média. C'est tout simple en fait. Hein. C'est accessible à tout le monde. C'est vraiment ça, rendre le plus désacralisé. Voilà, vraiment le truc, c'est pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on a ouvert un pôle, que je ne dise pas de bêtises, un pôle création sonore. Alors là aussi, c'est les termes, ça fait vachement intello, mais en fait, c'est tout ballot. Hein. C'est tout ce qui est reportage, documentaire, les fictions aussi, les petites fictions. Un exemple que j'aime bien prendre, je suis parti de la maison de chez mes parents, là où j'ai grandi, et puis j'ai repris le chemin de l'école que je prenais.
Génial.
Ça dure un quart d'heure, vous voyez, un petit son, un petit montage, et puis voilà, ça c'est de la création sonore, tout simple, tout bête, n'importe qui peut le faire, ça peut être passionnant, ou ça peut être très intéressant. Voilà le type, donc un pôle création sonore, et puis j'ai ouvert très dernièrement avec une bénévole qui se trouve dans le studio, là, derrière moi, et que je remercie beaucoup, c'est Jacqueline, qui s'est installée à Florac, en fait, d'où ma venue en Lozère.
Quelle bonne idée.
Ouais, et donc c'était un pôle livre audio. Voilà, j'avais rencontré Jacqueline qui me disait « Ah, je fais de la lecture pour les malvoyants, les gens, les publics empêchés, comme on dit en bibliothèque. » Et je lui dis « Elle faisait ça dans un studio pas terrible, un truc nul, quoi. » Je dis mais t'habites à côté de la radio, viens enregistrer chez nous. Ça. Ah, c'est bien insonorisé et tout, on a des super micros. Voilà, et puis le pôle s'est lancé comme ça. Jacqueline s'est installée à Florac, et puis moi j'ai continué le pôle audio, mais voilà, ça se développe petit à petit. Voilà pour présenter la radio, vite fait.
Alors ici, en radio libre et associative, parfois on a des contraintes, c'est-à-dire nous par exemple, on est obligé d'avoir 4 heures de programme parlé par jour. Mmh. Est-ce que c'est pareil pour toi là-haut ?
La même chose, exactement pareil. Ouais.
Sinon, on est considéré comme radio musicale et les subventions baissent.
D'accord. Ouais, non, nous on est... Bon, il faut savoir que la Loire-Atlantique, c'est le département de France qui a le plus de radios associatives de France. C'est comme pour les cinémas d'ailleurs, c'est le département qui a aussi le plus de cinémas associatifs en France. Donc c'est un terrain blindé, quoi. C'est vraiment... T'as tout ce que tu veux. Hein, voilà.
Ça donne envie. Justement, tu parlais de bénévoles, etc. Comment ça se passe avec eux ? Enfin, pas dans le bien ou dans le mal, mais comment tu les recrutes ? Est-ce que finalement, t'as une belle force de bénévoles derrière toi ?
On a un bon noyau. Alors, c'est tout jeune hein, comme radio. Hein. Ça a moins de 3 ans même. Moi, j'ai repris il y a 3 ans, mais le temps de tout restructurer, il m'a fallu au moins 6 mois, ouais, minimum. Bref, c'est tout jeune. Donc, petit à petit, ça se greffe. Alors, je dirais, comme je fais beaucoup la finance, tout ce qui est finance et tout ça, j'ai pas trop le temps pour l'antenne. Je dirais qu'il y a au moins une quinzaine de bénévoles. Voilà. Mais maintenant, de plus en plus, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont plus loin. Tu vois, on a des gens qui sont à plus de 100 km. Ils font leurs émissions et ils nous les envoient. Il y a 4 salariés, que du mi-temps. Hein. Que du mi-temps, 4 salariés à mi-temps avec les contrats aidés. Aussi en Loire-Atlantique, on a une spécificité. On est département pilote pour les contrats aidés. Donc on a encore ce type de contrat.
C'est pas mal, nous c'est fini.
Et oui. J'avoue que c'est très pratique. Hein. Ouais, sinon, j'aurais pas pu ouvrir des pôles éducation aux médias ou création sonore. Hein. C'est le contrat aidé qui nous le permet. En attendant d'améliorer ensuite. Tu vois, ça permet de développer pour... Le but, c'est le temps plein hein, pour les salariés, parce qu'à mi-temps, c'est nul. Donc, ouais, il faut un salaire décent, quoi. Bon, voilà, donc petit à petit, ça se développe. 4 salariés à mi-temps. Moi, je suis à même pas un quart temps. Et donc 15-20 bénévoles voilà, qui font un peu de tout. Hein. Ils peuvent faire du reportage, comme beaucoup d'émissions musicales, évidemment. Mais on a aussi des portraits... voilà, on est en pointe sur le droit des femmes. Voilà, c'est pour l'instant on est repéré pour notre musique et sur la question des droits des femmes. Voilà.
C'est tellement important. Et justement, on parle aussi de politique. Hein. On n'a pas le choix. Pas bonne ou mauvaise politique, mais tout ce qui est soutien région, département, commune. Est-ce que tu te sens soutenu, toi, ou alors est-ce que c'est compliqué parfois de les avoir?
Ah non, moi nous on est soutenus, on est, alors pour le studio, en fait on a deux fréquences sur la Loire-Atlantique, et je suis en train de monter un deuxième studio en Loire-Atlantique, où je réussisse à poser l'antenne, c'est déjà, ouais, c'est vachement dur hein, là-bas.
Ah ouais, tu m'étonnes.
Ouais, vous aussi.
On nous a volé la nôtre il y a quelques semaines, du coup on a dû tout remettre, oui c'était assez agréable.
Putain. Oh, pardon.
Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas.
Ouais, c'est chiant. Du coup, non, moi, il faut que je la pose quelque part. Moi, ça y est, là, j'ai des très bons contacts. C'est formidable. Ça devrait se voir le jour avant le 31 décembre, en tout cas. C'est le but. Et ouvrir un deuxième studio, là, il faut que je contacte le CTA, d'ailleurs, pour être bien sûr que je puisse ouvrir un studio. Je ne comprends pas toujours tout avec les autorisations de studio ou pas.
Alors, le CTA, pour nos auditeurs, hein, c'est. Non, il n'y a pas de souci. C'est l'équivalent territorial du CSA. Voilà, c'est eux qui nous donnent les autorisations de la fréquence, de ce qu'on doit faire, peut faire ou pas faire. Donc voilà, ils sont assez intéressants. Et là-haut, le CTA, vous les avez rencontrés déjà ?
Oui. Alors quand j'ai repris la radio, il y avait avec un passif, c'était détenu par des voyous, il faut le dire. Non, mais c'est vrai.
Bah, finir avec 36 000 euros de dette, c'est pas mal.
Ouais. Du coup, j'ai dit aux gens du CTA, on n'est vraiment pas nombreux. Tu vois, il y avait une service civique qui nous avait rejoints. Et j'ai dit aux gens du CTA, venez nous voir, parce que moi je peux pas tout faire tout seul. Mais venez me rencontrer, voilà, tu vois. Donc ils ont fait le déplacement. D'ailleurs, il avait neigé ce jour-là à Pornic. On n'avait pas vu la neige depuis 36 ans.
C'était un truc de fou. Hein,
ouais, c'était rigolo. Bref, ils sont venus, donc on les a rencontrés. Ils sont très, très, très sympas. Un conseil, tu vois, là aussi, on m'avait dit, CTA, tu les approches pas, tu les appelles pas, ils sont méchants et tout. Mais pas du tout, en fait. Ils sont de très bons conseils. Et voilà, donc tu parlais du soutien, le soutien, oui, on est bien soutenu par le département de Loire-Atlantique. La chance, c'est que le président de ce département a été bien présent sur les radios libres dès le départ, tu vois, dès 81, dès la création. Il y a, en fait, Nantes a été un des noyaux, un des bastions de la promotion des radios libres. C'est pour ça qu'on a cette force, en fait, au niveau départemental. Les radios nantaises sont vraiment connu de ce que je peux entendre sur toute la France, et nous en fait on profite de cette de cet appel d'air, tu vois, c'est bien quoi, en fait on est vraiment libre, on peut faire tout ce qu'on veut, voilà, donc la région continue de nous soutenir aussi, c'est pas mal, ça baisse un peu, mais bon, tout ça se discute. On a une fédération régionale, fédération des radios associatives en Pays de Loire, la FRAP. La FRAP.
C'est beau.
Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et puis au niveau communal, on est donc dans des locaux municipaux, donc hébergés gratuitement. Ça, c'est beaucoup. Hein. C'est avec ça que j'ai réussi à redresser la radio. Et puis voilà, là, je vais les solliciter pour. On a deux petits studios en fait dans les locaux. Il faudrait en insonoriser un deuxième. Et je demanderai à la commune si elle veut bien engager les frais de travaux. On verra tout ça en octobre 2021, je crois, l'an prochain. Voilà pour les soutiens à peu près, hein, vite fait. Après, il y a la DRAC qui nous soutient. Je vais en oublier, mais beaucoup le département de Loire-Atlantique.
Alors justement, tu parlais du vivier des radios associatives qui a, voilà, nous ici on fait des échanges, hein, beaucoup, c'est-à-dire des projets en commun avec d'autres radios, hein, je pense à Radio Zema, Radio Intervalle, enfin toutes ces radios locales et associatives. Est-ce que vous faites des projets en commun? Est-ce que vous vous rencontrez assez souvent?
Assez souvent, pas assez à mon goût, mais on se rencontre, ouais. On a un projet, c'est le Printemps de Bourges. Ça s'appelle les Inouïs chez nous, ça fonctionne en région, et il y a un tremplin régional, et donc nous c'est les Inouïs chaque année, et donc chaque année, c'est l'occasion où on se rencontre. On s'est également rencontré au mois de septembre l'année dernière sur la radio numérique. Je sais pas si j'ai pas eu le temps précédemment on était en entretien pour Jade FM, et j'ai pas eu le temps j'ai pas pensé à aborder ce sujet sur le numérique.
Ouais, et puis nous on n'est pas non plus au fait, ouais. Et puis on sait très bien que ça va coûter un bras. Donc grosso modo, de toute façon, le CTA dont on parlait tout à l'heure nous ont promis, après les promesses n'engagent toujours que ceux qui y croient, mais que la radio FM ne s'arrêterait jamais. Ah. Voilà, donc on espère qu'ils disent vrai. Mais c'est vrai que la radio numérique terrestre, le DAB+, je crois que ça s'appelle, c'est vrai que c'est assez intéressant, mais je ne vois pas encore l'utilité pour nous.
Bah, je te confirme, hein, ça a été lancé en Loire-Atlantique donc au mois de septembre l'année dernière. Et là, on avait fait une émission commune avec plein de radios. Personne ne connaît en fait. Hein. Donc il y a bien des fréquences en numérique, mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui les écoute parce qu'il n'y a pas de poste de récepteur numérique. Les gens connaissent pas, ils en ont pas entendu parler. Bon, nous non plus, on n'est pas là-dessus, mais. À terme, peut-être qu'on ira là-dessus. Mais pour te répondre sur la coproduction entre radios, il y a une difficulté en Loire-Atlantique, c'est qu'on a Nantes, qui est une métropole, avec des radios hyper balèzes, qui sont vraiment, mais qui ont des puissances de feu qu'on peut même pas se représenter. La radio pilote numérique, c'est à Nantes. Ça s'appelle Sun FM. C'est une radio associative qui a lancé le numérique en France. C'est elle qui a fait les premières expérimentations. Tu vois, quand tu as une radio comme ça à côté de toi, ils te regardent un peu de haut. On est un peu les ploucs. Tu vois, on est un peu pour eux des ploucs. Quoi. Donc, du coup, il y a toujours cette disproportion. Je me permets de le dire. Hein, au niveau fédéral, ça discute. Il y a un peu cette disproportion entre les radios nantaises et les autres. Quoi.
Comment ça s'est passé pour vous, le confinement?
Assez bien, c'était l'année du salariat à Jeune FM, parce que c'est en 2000, là, à partir de janvier, qu'on a lancé les quatre. Voilà, on était au complet, les quatre salariés. Et j'avais déjà mis le télétravail en route. J'avais dit aux collègues.
T'avais anticipé le truc.
Ouais, j'avais dit aux collègues, vous emmerdez pas avec les horaires. Il y a plein de trucs qu'on peut faire de chez soi. Si vous préférez, vous faites de chez vous. Voilà, donc on s'est super bien organisé. Pour nous, ça a roulé, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Ça n'a pas changé grand-chose. Alors évidemment, on avait moins de monde au micro.
Par téléphone peut-être.
Ouais, c'est
comme
ça.
Ici, nous,
ouais.
C'est ce qu'on a fait.
Ouais, on a tout fait par téléphone et ça a bien tourné. Après, c'est surtout les conséquences qui nous désolent. Plus de festivals, plus rien, plus de... tout ce qui est culturel aussi, la production de spectacles, c'est une catastrophe. Hein, ça va... Enfin, en tout cas, en Loire-Atlantique, je pense qu'il va y avoir des dépôts de bilan. C'est assez terrible hein, pour la filière. J'étais en reportage sur un cinéma aussi, cinéma associatif de trois salles.
Ça va être dur.
Ouais, ça va être très très dur. Ils sont même pas sûrs de l'avenir, quoi.
On reçoit beaucoup d'artistes ici aussi qui flippent pas mal. Voilà, on verra bien, croisons les doigts quand même, hein, sait-on jamais. Hein. L'exception culturelle française, elle est quand même là pour soutenir ce genre d'événement.
Ouais. Nous, en tant que radio, on fait ce qu'on peut pour les soutenir. Là, on va engager, on fait un plateau radio sur un appel à projet du patrimoine fluvial et maritime nigérien. Voilà, donc on fait le truc, on fait des plateaux radio et du coup, on a engagé des groupes pour venir jouer, tu vois, animer le truc. Bon, ça leur fait plaisir, quoi. Ça fait une date en plus.
Tu m'étonnes, le temps passe vite, oui. Vraiment. Est-ce que tu es prêt pour une petite interview détente?
Bien sûr.
Allez, on y va, jingle. C'est l'heure de l'interview détente.
Bah ouais, parce que j'ai pas le droit de dire feel good.
Non, j'ai pas le droit de dire feel good. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller à nos auditrices, auditeurs?
Oui, c'est un livre, j'ai parlé du pôle audio Jade FM, et c'est un livre dont on a fait lecture extrait à l'antenne. Ça s'appelle Ici n'est plus ici, c'est de, j'ai plus le prénom, mais c'est un écrivain américain, donc amérindien, qui s'appelle Orange, c'est son nom de famille, Orange. Donc Ici n'est plus ici, un livre formidable sur l'indianité contemporaine aux États-Unis. Bon, si je devais le présenter, formidable, hein, ça...
Ici n'est plus ici. Ouais. Un film,
alors là, complètement autre chose. Avec le confinement, j'ai regardé beaucoup de films. Enfin, j'ai réépuisé ma vidéothèque. Et puis, mon plus jeune frère m'avait proposé... il est très film américain, disons, mais série B, quoi. Les trucs un peu marginaux. Donc voilà, il m'a fait regarder un film qui s'appelle Juge Dredd. On a connu une version avec Stallone... nul, enfin j'ai même pas vu, enfin, c'est sans intérêt, mais là c'est vraiment de la série B, mais bien, film efficace, rien à voir avec le livre que j'ai cité, qui serait plus dans la catégorie France Culture. Là, Juge Dredd, on est plus dans un truc vraiment très populaire, quoi, des cinémas populaires. Donc Juge Dredd, très efficace, qui fonctionne comme un huis clos. Voilà.
Juge Dredd, et enfin un artiste, oui, un artiste d'ailleurs.
Oui, ce serait un artiste, quand j'avais repris la radio, un romancier était venu me voir avec son bouquin sous le bras, c'était très sympa, et c'était un polar, qui se passait, dont le décor était à Nantes, et très bonne surprise, c'était un excellent polar, et du coup, ça s'est très bien passé entre nous, et il a fini sa trilogie cette année, voilà, sur le décor à Nantes, donc il s'appelle Carl Pinault, donc c'est un artiste, Carl Pinault, il vit en moitié à Bangkok, en Thaïlande, et puis de temps en temps à Pornic. Et voilà, c'est un artiste, c'est un romancier, je pense qu'il vit de sa plume. Donc voilà, c'était l'artiste que je voulais présenter, Carl Pinault, donc Les Nuits Nantaises pour sa trilogie.
Merci beaucoup Vincent.
Mais c'est moi qui vous remercie, Radio Barthas.
Mais c'est toujours génial de rencontrer des gens qui bossent dans des radios associatives. Il y en a beaucoup en France pourvu que ça dure. Et voilà, Jade FM, un site internet peut-être ?
JadeFM.fr.
Ah bah voilà, tout simplement, auditeurs, auditrices, si vous voulez faire un tour, pas trop longtemps, revenez sur Radio Barthas quand même. Mais évidemment, allez écouter ce que font les autres radios associatives. Et puis franchement, si on passe par là-haut, évidemment qu'on poussera votre porte.
Ouais.
Avec grand plaisir.
Super.
Merci beaucoup et bonne continuation.
De même. À très bientôt.
Ciao. Et voilà, c'est la fin de cette matinale. Je vais exploser le micro, je vais me détendre. C'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi avec qui ? Avec les gens de la soupe. Et pourquoi ? Bah parce que le festival de la soupe de Florac arrive à grands pas. Ils recherchent toujours des bénévoles, des super bénévoles, comme ils disent. N'hésitez pas à les contacter, lesgensdelasoupe@gmail.com, tout simplement. Merci à toutes et tous de nous suivre. On vous souhaite une excellente journée ou soirée, puisque cette émission est rediffusée le jeudi soir à partir de 17h. Merci vraiment beaucoup d'être si nombreux à nous écouter tous les jours. Restez bien sur Barthas, on y est pas mal. On se quitte avec David Bowie. La chanson s'appelle Heroes. À lundi, ciao. Forever.